aujourd'hui avec Jean-Robert Pitt, le vin et les religions. Honorez le Seigneur et vos greniers seront remplis de blé et vos pressoirs regorgeront de vin. La Bible, extrait du livre des Proverbes. D'histoire. Dans un pays où tant de vins portent des noms de saints ou de monastères, on sait mieux que personne qu'avant d'être diabolisé, le vin a longtemps été une boisson sacrée pour toutes les religions sauf l'islam. Assimilé au sang du Christ dans l'Eucharistie des chrétiens, le vin était déjà dans l'Antiquité grecque et romaine un breuvage divin, comme le saké des Japonais, le vin de palme des Africains ou la bière des religions d'Europe du Nord. Dans les bacchanales de l'Antiquité, on en consommait même sans modération, ce qui permit un jour aux compagnons d'Ulysse d'échapper au sort que leur réservait le cyclope Polyphème en lui faisant découvrir les vertus, mais aussi les dangers de ce qui fut pendant des siècles la plus divine des boissons.
Qu'est-ce que c'est ?
Du vin !
Du vin ? On dirait du sang.
C'en est ! N'est-ce pas le sang de la vie ?
Oh, il est bon, oui. Dis donc, avec quoi tu as fait ce sang ?
Les gars !
Bravo, Grec. Remerciement, grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits grains rouges.
Du vin pour Polyphème, le fils de Neptune.
Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Ulysse échappant au cyclope Polyphème en le saoulant, un extrait de péplum au fond très moral, hein, puisqu'il montre que l'abus d'alcool est dangereux, en tout cas Polyphème y a perdu son œil. Et alors qu'en même temps, à l'époque d'Homère, vous le rappelez dans un livre, Le vin et le divin, le vin a toujours été justement divinisé. Toutes les religions en ont fait une boisson divine, sauf l'islam. Pour quelle raison ? Pourquoi le vin et pas le jus d'orange ou l'eau, par exemple, Jean-Robert Pitt ?
L'islam aussi, hein, on pourra en reparler éventuellement, ouais. Mais le vin, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un produit qui se transforme de lui-même. Et avant Pasteur, on ne savait pas très bien comment ça se produisait, cette transformation du sucre en alcool sous l'effet des ferments. Que cette fermentation provoque un dégagement de gaz, donc des petites bulles. Et quand on rentre dans une cuve de vin en fermentation, on sent ces petites bulles comme dans un jacuzzi presque. En plus, ça chauffe, ce qui est même miraculeux. Ça chauffe pratiquement à la température du corps et même dans certains cas un peu plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a toujours étonné depuis l'Antiquité, ceux qui ont mis du jus de raisin, d'autres jus de fruits ou des décoctions de céréales à fermenter. Puis la deuxième raison, c'est que le vin, qui est une boisson alcoolisée, provoque à partir d'une certaine dose un phénomène extraordinaire qui est longtemps apparu comme magique ou divin, religieux, qui est l'ivresse.
Oui, parce qu'on comprend pas au fond pourquoi ça enivre le vin. C'est le mystère de la fermentation. D'ailleurs, de même que le pain était un aliment sacré, parce qu'on ne comprenait pas non plus pourquoi il levait. Hein, c'est la même chose.
On ne comprenait pas pourquoi il levait, et en plus, il levait, c'est un symbole de la vie, parce que le pain, encore plus que le jus de raisin en train de fermenter, ressemble à la vie en train de naître, c'est-à-dire à une femme dont le bébé croît dans son ventre. Et c'est ça, le pain qui est merveilleux, quand vous voyez à la chaleur, ce pain qui est en train de se gonfler, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
Vous étiez déjà venu nous en parler dans 2000 ans d'histoire. Ouais. Jean-Robert Pitt, vous dites qu'au fond, il y avait le mystère que représentait l'ivresse. On savait pas du tout, donc ça devait être d'origine divine.
Non, parce que l'ivresse, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt mal vu, plutôt mal considéré dans nos sociétés, très politiquement incorrect. Mais d'abord, il y a des quantités de sortes d'ivresse. Et entre l'ivresse lourde de celui qui boit une bouteille de, je sais pas, d'alcool fort, de whisky, par exemple, en entier, qui effectivement s'endort d'un sommeil très très lourd et puis qui a un sérieux mal de crâne le lendemain, voire des conséquences plus fâcheuses sur sa santé, et l'ivresse légère, qui est une euphorie, en fait, de celui qui boit un ou quelques verres de vin et qui peut le supporter, mais qui découvre au fond de lui-même des trésors de gentillesse, de poésie, d'amour, des trésors parfois d'expression artistique par le chant. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui arrivent par là.
Oui, mais même l'ivresse lourde, vous le dites, était encouragée dans l'Antiquité. Il y avait les bacchanales, bien sûr, hein, où là, on pouvait se saouler jusqu'à plus soif. Il y avait aussi quelque chose, vous pouvez nous rappeler ce que c'était, ce que vous appelez le symposion.
Le symposion, que nous, universitaires, c'est un mot qu'on utilise, mais on ne pratique jamais le vrai symposion à l'antique. Symposion, en grec, ça veut dire boire ensemble. Mmh. Et c'est la cérémonie qui se pratique à la fin du banquet grec, et au cours de laquelle on fait passer un cratère, un grand vase en métal, si possible précieux, dans lequel il y a du vin mélangé d'un peu d'eau, et on boit dans ce vase, et on le fait tourner constamment, jusqu'à ce qu'il provoque l'ivresse des buveurs. Et en buvant, en atteignant l'ivresse, les buveurs se rapprochent de Dionysos, voire deviennent
le
Dionysos
divin,
lui-même. Ouais. Deviennent Dionysos lui-même. Mmh. Donc c'est quelque chose qui préfigure ce que les chrétiens connaissent sous le nom d'Eucharistie.
Dieu du vin, Dionysos, comme l'était Bacchus pour les Romains.
Eh oui.
Avec leur bacchanal, il y avait aussi les Juifs, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous le rappelez aussi, Jean-Bert Pitt, le vin est très présent. D'abord, quand Noé s'échappe du déluge, les premières plantations qu'il fait, c'est des vignes, pratiquement, à l'endroit même, d'ailleurs, où est né le vin, c'est-à-dire dans le Caucase.
C'est-à-dire dans le Caucase, en Arménie, là, au pied de l'Ararat, là où l'arche s'échoue. On cultive toujours la vigne aujourd'hui. Hein.
Il y a aussi les filles de Lot, ayant échappé à la destruction de Sodome et Gomorre, elles saoulent leur père pour coucher avec. Alors là, en plus, c'est associé à un autre interdit qui est l'inceste.
Oui, qui est l'inceste. Et Noé, je vous rappelle que sa première ivresse donne lieu à une révélation pour ses enfants, qui est la révélation de la source de la vie, puisque Noé se dénude. Oui. Et donc, ses enfants, on imagine dans quel état il a dû se dénuder après avoir un peu bu. Oui. Ses enfants découvrent, au fond, l'origine de leur propre vie, de leur propre existence. C'est ça qui est extraordinaire. Et celui qui se moque de lui, celui qui se moque de Noé, est chassé, tandis que les autres sont au contraire bénis de leur père. Et les filles de Lot, c'est cet inceste extraordinaire, qui n'est probablement pas à recommander, mais qui dans la Bible prend une valeur sacrée incroyable, parce que c'est la fondation de la race élue. Oui. La race élue aimée de Dieu, puisque les hommes n'ont pas voulu des filles, les hommes de Sodome et Gomorre n'ont pas voulu des filles de Lot, puisque même les fiancés des filles de Lot ont préféré rester dans la ville maudite, et sont morts donc sous le feu du ciel, et donc les filles sont obligées, pour perpétuer la race élue, de coucher avec leur père.
Bah, comme d'ailleurs, ça aussi ça m'a intrigué, parce qu'on se pose jamais la question. Adam et Ève n'avaient que deux fils.
Oui.
Comment avons-nous pu descendre d'eux? Bah, aussi, il y a eu aussi un inceste. Mais là, cette fois-ci, c'était carrément au début.
Il n'y avait pas de vin.
Oui, il n'y avait pas de vin. Alors, très présent dans l'Ancien Testament des Juifs, le vin l'est aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament, avec le vin des noces de Cana, ou encore, bien sûr, celui que le Christ fait boire à ses apôtres pour son dernier repas, et qui est à l'origine de la communion des chrétiens.
Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de tout l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance que je verse pour vous, et pour tant d'autres, en vue de la rémission des péchés.
Et c'était un extrait du Roi des Rois, la scène, la communion du Christ avec ses apôtres, qui est à l'origine de l'Eucharistie, qui se pratique dans toutes les églises du monde. Le sang du Christ étant assimilé au vin, si bien que là, vraiment, on ne peut pas imaginer plus sacré que le vin. Pour les chrétiens.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le premier miracle du Christ, noce de Cana, c'est-à-dire le début de sa vie publique, 3 ans avant sa mort, c'est précisément de transformer de l'eau en vin. Et le dernier miracle, avant la résurrection, c'est la fondation de l'Eucharistie, donc pendant la scène, où le Christ déclare que ses successeurs, ceux qui le feront en son nom, donc les successeurs de ses apôtres, auront le pouvoir extraordinaire, immensément religieux, de transformer du pain dans le corps du Christ et du vin dans le sang du Christ. Ce qui est quelque chose qui est, pour nous aujourd'hui, même pour les croyants, totalement incompréhensible, tellement anticartésien, tellement contre la logique. Mais pour les anciens, que ce soit des Juifs ou même des païens, grecs ou romains, dans la mesure où ils connaissaient, en particulier les Grecs et les Romains, le fondement du symposion, c'est-à-dire de la transformation du vin dans le dieu Dionysos ou le dieu Bacchus, c'est quelque chose qui est apparu comme beaucoup plus normal.
Assez naturellement.
Ouais.
Et on se l'a dit assez naturellement, mais qu'on devait boire avec modération. Il y a une phrase de formule de Saint Paul, parce que si on célèbre le vin, on ne célèbre pas forcément l'ivresse, on accepte l'euphorie et pas l'ivresse. C'est Saint Paul qui disait: ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche, laissez-vous remplir par l'Esprit Saint, hein, ce qui est peut-être plus recommandé. Non,
ça dépend des vins, peut-être que les vins d'Antioche ou d'Éphèse n'étaient pas très très bons.
Cela dit, vous le rappelez aussi, Jean-Robert Pitt, et ça on ne le sait pas forcément, on coupait le vin, on le buvait, même dans l'Antiquité, on le buvait rarement à l'état pur.
On a toujours coupé le vin d'eau jusqu'à une date récente, d'abord parce que les vins antiques étaient des vins très épais, étaient des vins qui étaient filtrés au travers de branchages, mais qui restaient très très épais, qu'on mélangeait avec du miel, qu'on mélangeait avec toutes sortes d'épices, avec des poudres variées, avec de la résine, comme aujourd'hui les résines grecques, hein, les resina grecques, et qui étaient des vins qui avaient besoin d'être coupés d'eau pour être désaltérants. Mmh. Parce qu'en hiver, on peut supporter de boire un vin sirupeux. En été, comme dans les pays méditerranéens, il faut absolument le couper d'eau. Et en plus, on y mettait, si on en avait les moyens, et ça arrive dès la fin de l'Antiquité, et surtout au Moyen-Orient, de la neige ou de la glace.
Enfin, plus tard, il y a quand même des sacrilèges. Hein, Louis XIV qui coupait son vin de Vaune, Napoléon son chambertin. Il y a des prêtres, au fond, qui ont continué à couper continuent de couper en principe leur vin avec de l'eau.
Dans la messe, au cours de la messe, le prêtre met un peu d'eau dans le vin, ce qui est un double symbole. C'est à la fois, pour les chrétiens, c'est le symbole de l'eau qui sort du flanc du Christ avec le sang après sa mort sur la croix, lorsque le soldat romain envoie sa lance dans son flanc. Mais c'est aussi, tout simplement, comme beaucoup d'actes religieux de la liturgie chrétienne, et en particulier orthodoxe, il y en a encore bien plus de symboles de ce genre, c'est un témoignage de cette vieille pratique antique du coupage du vin avec de l'eau.
Est-ce que la réforme a interrompu ce culte du vin? Est-ce que les protestants boivent autant que les catholiques?
Non, c'est très curieux. Il y a
boivent autant peut-être, je veux dire, est-ce qu'ils le célèbrent de la même manière?
Les chrétiens n'ont jamais réellement culpabilisé l'euphorie, voire l'ivresse, à condition qu'elle ne soit pas si fréquente que cela, liée à la surconsommation du vin ou de l'alcool. En revanche, bon, les musulmans, comme vous le savez, l'ont totalement condamné, avec ce prétexte, qui n'est pas totalement faux, que quand on boit trop, ou même quand on boit tout simplement, on risque de blasphémer le nom de Dieu, ce qui est le péché le plus grave. Donc on attend le paradis, mais les musulmans croyants ne rêvent qu'à cela. Ils rêvent qu'à la... Enfin, en revanche, les protestants, c'est autre chose, parce que le protestant qui n'a pas de clergé, qui n'a pas de confession, qui n'a pas de sacrement de pénitence, a besoin d'être constamment dans l'amour de Dieu, d'être persuadé qu'il est dans l'amour de Dieu, d'être totalement maître de lui-même, et s'il boit trop, et bien sûr, il ne sera plus maître de lui-même, et il risque de commettre n'importe quoi dans ses œuvres. Enfin, je vous renvoie à Weber et à ses théories qui sont pas si fausses que ça, même s'il y a il faut nuancer un certain nombre des idées de Weber. Cette espèce d'angoisse du protestant qui ne sait pas s'il est aimé de Dieu fait qu'il ne boira jamais trop de vin, trop d'alcool, sauf ce que font les protestants d'Europe du Nord, où le vendredi soir ou le samedi soir, ils se saoulent complètement. Et puis, à partir du dimanche matin, le jour du Seigneur, hop, on revient dans le droit chemin. D'ailleurs, on met des ficelles rouges dans les rayons des supermarchés autour de l'alcool.
Ah, vous le disiez justement, Jean-Robert Pitt, là où on ne prêche pas la modération dans la consommation de vin, mais carrément l'abstinence, c'est l'islam, même si à Bagdad, le plus célèbre calife des mille et une nuits en buvait, disait-on, en cachette.
Mais où suis-je?
Dans le palais, Altesse.
Et je suis qui?
Le chef suprême des croyants, le monarque du monde, la voix du prophète sur terre. Vous êtes le sultan Harun Abrashid. Vous avez beaucoup bu hier soir, Altesse. Cela affecte votre mémoire.
C'est vrai que je bois.
Le vin, votre Altesse, il embrouille vos idées.
Alors c'était un autre extrait de film. Alors je ne sais pas si Harun al-Rashid, Jean-Robert Pitt, buvait aussi du vin. Mais en ce qui concerne, mais justement le Coran est assez ambigu, contrairement à ce que l'on dit, parce que vous citez deux citations, deux extraits du Coran. L'un qui dit « Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirerez une boisson enivrante et un aliment excellent ». C'est dans le Coran. Mais plus loin, il y a une autre formule, c'est dans la vache. Dans la sourate, oui. S'il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dis, dans les deux, il y a un grand péché, et quelque avantage pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc, il y a interdiction.
Il y a interdiction. Je pense que l'islam s'est résolu, la révélation du prophète le présente ainsi, s'est résolu finalement à interdire totalement la consommation d'alcool. Alors, comme vous savez, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et beaucoup de musulmans, y compris très croyants. Je trouve que j'en ai rencontré un hier, saoudien, avec qui d'ailleurs on a bu une très très bonne bouteille et il en a parlé très 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 bien. On a parlé de ça justement et il m'a dit bon, on le fait en privé, je ne le ferai pas en public, on le fait en privé et c'est une interprétation assez courante dans l'islam que boire sans aller jusqu'à l'ivresse, mais à la limite, pourquoi pas une fois de temps en temps, n'est pas un drame absolu, ça ne prive pas de Dieu, à condition qu'on n'aille pas à la mosquée prier dans ces conditions, etc. C'est beaucoup moins grave que de manger du porc, par exemple. Le porc est l'interdit majeur, et pas seulement des musulmans, de tous les monothéistes du Moyen-Orient. Les juifs et les chrétiens du Moyen-Orient ne mangent pas de porc non plus. Les juifs, parce que c'est interdit, les chrétiens, par habitude. Donc, en revanche, en public, ça ne se fait pas dans l'islam, et il y a très très peu de musulmans qui acceptent de boire en public, et en particulier... dans les pays musulmans.
Oh, si, on peut boire dans l'islam, mais au paradis.
Ah, là. Au paradis.
Alors le paradis, la description du paradis, hein, c'est du vin qui coule à flot, du miel, etc.
Il y a tout ce que l'on veut. Il y a des fleuves d'eau pure, des fleuves de miel, des fleuves de vin magnifique qui ne se putréfiera jamais, donc qui ne se transforme pas en vinaigre, ce qui est la logique même de l'évolution du vin. Et puis en plus, il y a les fameuses houris dont la virginité se reconstitue après chaque usage, comme vous le savez.
Et puis il y a des pays où il y a une certaine tolérance. Vous évoquez par exemple le cas des pays d'Asie centrale, de l'islam turc. Vous évoquez aussi le cas de l'Iran où il y a un excellent vin qui est le Shiraz, presque aussi bon d'ailleurs que celui qui venait des abbayes et des monastères européens du Moyen Âge. C'était l'excellent ensemble L'Amorache, au vin, aux vignes, de Roland de Lassus, qui était un des plus grands compositeurs de musique sacrée du XVIe siècle. Musique sacrée, on vient de l'entendre, qui sacralisait aussi le vin, Jean-Robert Pitt, et pas seulement le vin de messe. Cela dit, c'est un peu grâce au vin de messe, au fond, que dans les monastères, on a amélioré la technique de vinification, et surtout que toute l'Europe a exporté ses vignobles, parce qu'il fallait faire des messes partout, en Amérique latine, etc., après la découverte de l'Amérique. Au fond, l'expansion du vin, c'est progrès, sa modernisation, si on peut dire, ça vient des monastères, ça vient de l'Église.
Bah, c'est-à-dire que le christianisme a diffusé une invention à la fois du judaïsme et gréco-romaine à travers le monde entier, jusque dans les contrées improbables, c'est-à-dire jusque dans les contrées proches du cercle polaire au nord, en Allemagne du Nord, en Écosse, qu'on faisait du vin au Moyen-Âge, et jusque dans les contrées tropicales, puisqu'on a fait du vin et on fait toujours du vin en Inde, on fait du vin au Brésil, à proximité du tropique et de l'équateur. Et même, il y a de très bons vignobles dans les bouches de l'Amazon. Donc, le christianisme a été un propagateur extraordinaire de cette boisson parce que, d'une part, le vin était nécessaire à la messe, mais aussi parce qu'il était nécessaire à l'hospitalité, à la joie, à la convivialité. C'est les deux. Et les monastères, si les monastères ont tellement contribué dans l'Europe, dans l'Occident chrétien, à faire progresser la qualité du vin, c'est d'une part parce qu'ils en avaient besoin pour la messe, l'office divin, mais pour l'hospitalité, le devoir d'hospitalité. Quand les monastères comme Cluny ou comme Citeaux recevaient des hôtes de marque, c'est-à-dire les grands seigneurs qui traversaient l'Europe pour aller aux croisades ou aller à Jérusalem ou à Compostelle, eh bien on leur servait plutôt du bon vin parce qu'ils faisaient des dons aux monastères. Et puis il y a une troisième raison, c'est que quand on est moine bénédictin, orare et laborare, ça veut dire quelque chose, prier et travailler, et le travail est une prière, donc il faut faire le travail le mieux possible, et faire du bon vin, c'est une sorte de prière magnifique à Dieu. Le travail bien fait contribue, je dirais, à l'exaltation de la vie du moine.
C'est pas un hasard d'ailleurs si beaucoup de grands crus portent des noms de monastères
Bien sûr. Bah, quelques-uns des plus grands crus, je pense à la Bourgogne par exemple, quelques-uns des plus grands crus de Bourgogne comme le Clos de Vougeot ou comme la Romanée-Conti sont des crus monastiques à l'origine, comme le Mont-Rachet, qui sont des crus qui appartenaient aux grandes abbayes bourguignonnes et sur lesquelles qui ont été des laboratoires du perfectionnement des techniques viticoles tout au long du Moyen Âge et de l'époque moderne. Et ensuite donc c'est la bourgeoisie ou l'aristocratie qui ont repris ces domaines et ont continué à faire le plus grand vin possible, comme une sorte d'œuvre d'art, en quelque sorte.
Beaucoup de crus qui portent des noms de saints aussi. Enfin, ceux de Saint-Émilion, en général, etc. C'est assez extraordinaire, quand même.
Oui. Ah. Oui, oui.
Alors cela dit, ils ne produisaient ces moines du vin que dans les pays ou les régions où on pouvait en faire pousser, même si on arrivait très au nord, on n'arrivait pas toujours à en faire pousser partout, si bien que dans d'autres régions, eh bien, ces moines produisaient une autre boisson sacrée dans le nord de l'Europe.
Bonjour, frère moine. Je suis Robin de Locksley. Mes compagnons ont soif.
Robin de Sherwood? Robin des Bois!
Ta charité t'interdit de priver de bière tous ces bons chrétiens.
Si vous voulez goûter l'excellente boisson de notre Seigneur...
Alors, Kertuk, merci pour la bière.
Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière.
Et oui, il n'y a pas que le vin qui soit sacré. Jean-Robert Pitt, vous le rappelez dans votre livre, au Moyen-Âge, il y avait aussi la bière. C'était d'ailleurs même, il faut le rappeler, la première boisson fermentée de l'histoire avant même qu'on ait inventé le vin. Et déjà oui, sacré.
Bien sûr, parce que si vous mettez les céréales pour de l'Antiquité, je parle du Néolithique, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, si vous mettez les céréales, de l'orge par exemple, dans de l'eau, bien au bout, surtout en été quand il fait chaud, au bout de quelques jours, ça fermente et ça vous donne une boisson légèrement alcoolisée de quelques degrés, 4, 5, 6 degrés, ça dépend de du temps de fermentation, qu'on appelle bière et qui est antérieure au pain, antérieure à, bien sûr, au vin, qui apparaît 2, 3 ou 4 000 ans plus tard.
Et déjà sacré.
Et déjà sacré, puisque c'est la boisson des dieux mésopotamiens, comme c'est la boisson des dieux du vieux panthéon germanique, de la forêt germanique, les Égyptiens aussi, évidemment, ouais. Oui, le pharaon boit de la bière, il boit du vin aussi, mais il boit de la bière, bien sûr. C'est la boisson alcoolisée la plus ancienne, et alors, c'est un peu plus long de tomber dans l'ivresse avec de la bière qu'avec du vin, il faut en boire deux fois plus, puisqu'il y a deux fois moins d'alcool, mais enfin, ça peut être très efficace aussi. Hein.
Et vous disiez aussi la boisson de l'Europe du Nord, y compris d'ailleurs pour les chrétiens en Europe du Nord, hein, puisque les moines, là encore, les trappistes belges, par exemple, fabriquaient de la bière, ouais. Mais aussi pour les dieux Odin, pour le Valhalla des Germains, c'était une boisson sacrée. Là aussi, il y avait de sacrés bacchanales, si on peut appeler ça comme ça, quand c'était les Germains. Ils se saoulaient, oui.
Les Vikings buvaient de la bière dans les cornes de roc, pratique qui existe encore d'ailleurs, avec du vin, de boire dans les cornes en Géorgie, de manière très ancienne. Mais surtout, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la bière est restée une boisson très identitaire dans les pays germaniques. Vous savez bien, en Allemagne, par exemple, c'est vraiment la boisson identitaire, mais en concurrence avec le vin dans les parties où pousse la vigne, comme par exemple la vallée du Rhin, et jamais les moines chrétiens du monde germanique n'ont demandé au Vatican à célébrer la messe à la bière. Donc il y a bien là une espèce de concurrence de frontières majeures, qui est culturelle, mais qui est aussi géographique, physique, entre une Europe méditerranéenne qui est vouée à la vigne et au vin de raisin, et puis une Europe du Nord vouée à la bière, mais la bière étant une boisson païenne, tandis que le vin de raisin est la boisson monothéiste par excellence. Et c'est très étonnant parce que Luther a essayé de remettre en vigueur un peu la consommation de bière. Le luthérianisme a contribué à ça, mais il n'a jamais réussi à éradiquer le vin. Et donc un bon luthérien, par exemple les Alsaciens, et vous avez beaucoup de vignerons alsaciens qui sont de très bons luthériens pratiquants, ça ne les empêche pas de boire un verre de bière de temps en temps, mais le luthérianisme n'a pas éradiqué la consommation de bière.
La bière qui a disparu d'ailleurs du pays d'où elle est venue, à cause de l'islam justement, de Mésopotamie, il n'y en a plus, il y avait 50 espèces de bières dans l'Antiquité
oui.
De Mésopotamie.
Oh, oui, il y avait des bières solides, mais il y avait des bières enfin, très visqueuses, des sortes de bouillies.
Alors, autre boisson dont vous parlez, qui est le vin de palme. Alors on ne le connaît pas très bien, évidemment, en Occident, parce que c'est un vin qui voyage très mal, mais qui est également une boisson sacrée en Afrique. On devrait dire le vin de palmier plutôt que de palme, d'ailleurs.
Oui, enfin, c'est le vin de la sève du palmier. Oui. On incise le sommet du palmier. Quand le palmier est adulte, il faut monter à 15 mètres de hauteur pour aller recueillir dans une calebasse la sève du palmier. Et ça fermente très, très, très vite en pays tropical, jusqu'à 5, 6, 7, 8 degrés d'alcool. Et c'est vraiment lié au pouvoir des chamans dans toutes les religions traditionnelles africaines et au pouvoir royal, les rois étant souvent des rois prêtres, des rois chamans en Afrique, dans l'Afrique traditionnelle. Et on a beaucoup de descriptions d'explorateurs, de missionnaires, etc., de voyageurs africains dans les siècles passés qui décrivent les rois des différentes tribus africaines gouvernant en permanence en état d'ivresse.
Ah oui.
Et vivant constamment avec une calebasse de vin de palme, buvant, offrant à leurs amis, à leurs hôtes, mais buvant et étant constamment en état d'ivresse, l'ivresse étant un moyen de communiquer directement avec les dieux, et donc d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est comme Noé.
Pour ça qu'on en boit d'ailleurs pendant les funérailles, en Afrique, je crois, il y a toutes les fêtes sont associées au vin de palme. Ça ressemble à quoi d'ailleurs, puisqu'on le connaît pas.
C'est un peu laiteux, un peu fade, c'est pas désagréable. Quand c'est frais, c'est pas désagréable. Le lendemain, c'est épouvantable. Il peut y avoir quelques problèmes intestinaux pour les Occidentaux qui ne sont pas habitués à en consommer.
Alors, autre boisson sacrée, mais alors en Asie, celle-là, là où pousse non plus le blé, enfin où poussait, parce qu'il pousse un peu partout, mais où poussait le riz, c'est évidemment la boisson fermentée du riz, c'est le saké.
C'est le saké qui n'est pas enfin le saké japonais, mais il y a plein d'équivalents en Corée, c'est ce qu'on appelle makgeolli ou dongdongju. Il y a des équivalents en Chine, beaucoup d'équivalents en Chine. Donc c'est tout simplement du riz mêlé à de l'eau. Et puis mis à fermenter, et ce saké n'est donc pas un alcool, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui dans les restaurants chinois se croient qu'on leur offre du saké, on leur offre un alcool distillé. Mais le saké japonais ou coréen ou son équivalent chinois est une boisson fermentée qui fait 15-16 degrés, qui peut être absolument délicieuse. Il y a des sakés grands crus merveilleux, parce que ça dépend de la qualité du riz, ça dépend de la qualité de l'eau, ça dépend des rendements du riz. Donc il y a les mêmes, exactement la même hiérarchie des sakés que pour les vins dans les pays de vignobles,
et la même sacralisation, parce que vous dites que sa préparation c'est presque religieux.
Ah oui, les grandes fabriques de saké ça se sont toujours associées à des temples shinto. C'est vraiment la boisson du shintoïsme que consomment les moines dans les temples, que consomment également les époux qui vont se marier, puisque le shintoïsme est associé aux événements heureux de la vie, c'est un culte de la vie. Et donc, même les femmes qui n'en boivent pas d'habitude, boivent du saké le jour de leur mariage au Japon, dans le temple shinto.
Revenons au vin. Le vin, bon, la pratique religieuse diminue, c'est quand même pas la raison pour laquelle la consommation de vin diminue aussi, Jean-Robert Pitt, parce que c'est le cas.
Hein, non, mais il y a des quantités quand même d'habitudes sociales ou de principes éthiques qui sont issus du christianisme, même si les gens ne sont plus chrétiens ou plus pratiquants. Ils ont quand même conservé quelques habitudes telles que la solidarité, par exemple.
Merci en tout cas, Jean-Robert Pitt, de nous avoir rappelé les rapports étonnants entre la vigne et le divin, c'est-à-dire le titre de votre livre, Le vin et le divin, un livre que je recommande, dont je recommande la lecture et qui vient de paraître aux éditions Fayard. Vous êtes également l'auteur de Gastronomie française, Histoire et géographie d'une passion, également paru chez Fayard en 91, mais qui doit être réédité très prochainement chez Fayard toujours. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Ulysse de Mario Camerini, Le Roi des Rois de Nicolas Ray, disponible en DVD chez Warner Video, Les Mille et Une Nuits de Steve Barron, disponible également en DVD chez Fridolfine, enfin Robin des Bois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, également disponible en DVD cette fois-ci chez Warner. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, deux hommes dont les